Bonjour frères et sœurs. On va reprendre ce chapitre de l'évangile de Jean, Jean chapitre 2. C'est un chapitre où ça bouge. Hein. Ça bouge en dansant peut-être durant le mariage. Puis après ça bouge en fouettant hein, dans le temple. Là Jésus fait courir les gens là hein. Ça s'agite. On a deux des plus célèbres scènes de la vie de Jésus. Les noces de Cana, c'est-à-dire ce tout premier miracle que Jésus a accompli à l'occasion d'un mariage. Et pendant ce mariage, voilà que le vin vient à manquer. On ne sait pas pourquoi, en tout cas. Les quantités ont été mal calculées. Peut-être c'était une famille un petit peu humble. C'était probablement d'ailleurs de la famille de Jésus, hein, puisqu'ils sont tous invités en famille. Il peut même amener ses disciples et tout ça. Peut-être que le gars, en préparant le mariage, s'est dit « Bon, je ne vais pas prendre de la piquette quand même, ça ne se fait pas pour un mariage. Les vins haut de gamme de Gaulle, non, n'y pensons pas. » Bon, on va prendre du médium. Et puis, bon, allez, deux verres par personne, ça va bien, quoi. Ça ira pour ceux qui boivent pas, ceux qui boivent un petit peu plus. Ben, raté. Je sais pas, peut-être qu'il avait prévu de sortir le vin, je sais pas moi, vers 5 heures. Et puis peut-être que l'ordonnateur du repas, lui, il a vu le vin, bim bim, les habitudes. Hop, à 14 heures déjà, il avait tout sorti pour l'apéro. Et puis après, il en restait plus assez pour le repas. Que sais-je ? En tout cas, ça affiche mal. Hein, c'est, t'arrives au milieu du repas, il n'y a plus de vin, ça fait pas bien. Ça met dans l'embarras. Il y a une question d'honneur. C'est même une question de déshonneur qui est là. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'accueillir ses invités. Correctement et on est dans une situation embêtante. On va en reparler. Donc ça c'est ce premier épisode, un épisode bien connu, et là Jésus va faire remplir des bassins où il y avait de l'eau pour la purification, il va les faire remplir d'eau. C'était vide et il va transformer ça en vin à tel point que le vin que Jésus a fabriqué par miracle est de bien meilleure qualité que le vin qui précédait. Et puis le deuxième épisode, ce qu'on appelle l'épisode de la colère du temple, où Jésus se rend au temple de Jérusalem et en arrivant dans le parvis, dans la cour des gentils, c'est-à-dire dans la partie qui était réservée aux non-juifs. C'était les non-juifs qui venaient des nations environnantes mais qui avaient entendu parler du Dieu d'Israël et qui venaient adorer le Dieu d'Israël jusqu'au temple à Jérusalem, mais il ne pouvait pas se mélanger avec les juifs. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Et donc ils avaient leur parvis à eux réservé. Seulement voilà, dans ce parvis, eh bien on faisait du business. C'était dit, oh là là, c'est de la place un peu... Il faudrait rentabiliser la place. On va installer un peu des échoppes là, hein, pour les gens qui viennent faire les sacrifices. Il faut le bon mouton, il faut le bon oiseau, bien cachère, bien élevé dans la tradition. Et puis attention, surtout, on l'achète avec la monnaie du temple, non pas la monnaie juive. Mais le temple frappait sa propre monnaie et obligeait les gens à... Donc Jésus a renversé les tables de change, hein, parce que les gens arrivaient avec la monnaie En fait, c'était la monnaie romaine, hein, l'Empire romain, les pièces, c'était la monnaie romaine. Eh ben non. On changeait la monnaie romaine, hop, 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 pour pouvoir avoir l'équivalent en monnaie du temple, et avec cette monnaie du temple, pouvoir acheter en bonne et due forme les animaux pour le sacrifice. Et bien sûr, le change permettait de s'en mettre plein les poches aux religieux. C'était du business. Et quand Jésus voit ce business qui a lieu au sein même du temple, dans son enceinte, il se met en colère. Alors, ce matin, on va s'arrêter sur plusieurs choses. D'abord, c'est un chapitre qui nous montre profondément la personne de Jésus, et dans la personne de Jésus, bien sûr, la personne de Dieu. Jean a commencé en disant « Au commencement était le Verbe, la parole était avec Dieu, elle était auprès de Dieu, elle était Dieu, et la parole a été faite chair, elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » C'est-à-dire que ce Verbe, cette parole existant en forme de Dieu, égale à Dieu, Dieu, par qui tout a été créé, par qui tout notre monde a été créé, eh bien, il y a ce projet de prendre forme humaine, identité humaine, et de se faire homme parmi les hommes. Dieu se fait homme, Emmanuel, Dieu avec nous. Jean a présenté cela au chapitre 1. Et maintenant, nous voyons Jésus, cette parole faite chair, Dieu présent parmi les hommes, sous forme d'homme, sous identité humaine. Et nous sommes donc intéressés de savoir quels vont être les tout premiers actes publics qu'il va faire, parce qu'il commence son ministère, et on regarde les débuts. Et qu'est-ce que Jésus va faire au début ? Parce que finalement, les débuts donnent, comment dirais-je, une lignée, une ligne directrice. Eh bien, dans les débuts, nous avons ces deux épisodes à quelques jours d'intervalle, les noces de Cana et la colère du temple. J'aimerais que nous réfléchissions à ce que les noces de Cana nous apprennent de la personne de Dieu qui vient habiter parmi nous. Il est venu chez les siens. Il est venu pour que nous ne soyons plus dans les ténèbres. Il est venu dans les ténèbres. Il était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Ça, c'est Jean qui le dit quelques versets avant. Et je me dis, tiens, mais ces ténèbres, c'est mes ténèbres. Et Jésus qui est la lumière, qu'est-ce qu'il va faire pour que mes ténèbres puissent être remplacées par de la lumière ? Eh bien, le Seigneur va faire un premier miracle, et dans ce premier miracle, il montre sa gloire et il change l'eau en vin. Pour moi, je m'aperçois que la première des choses que fait Jésus, c'est qu'il vient apporter la joie. La vraie joie. Voilà une fête qui bat son plein, mais qui risque de ne pas battre très longtemps puisqu'on est à court de vin. Et la gaieté, ça va retomber comme un soufflet. Et la situation est un peu critique. Jusque-là, on a pu s'égayer avec le vin qu'on avait. Mais on est arrivé au bout de ses ressources. On est arrivé au bout de ce qu'on avait. Et nous ressemblons beaucoup à cette fête dans nos vies. Nous cherchons à fabriquer notre joie, notre bonheur. Nous cherchons à mettre autour de nous ce qui va permettre d'être dans la gaieté, dans la joie. Et puis, après avoir fait ceci, fait cela, essayé ceci, essayé cela, en fait, on arrive un peu à court. Et l'être humain, dans sa recherche du paradis perdu, dans sa recherche du bonheur, dans sa recherche de la joie, eh bien, il met en œuvre des tas de choses, mais il arrive toujours au bout de ses ressources, et le voilà à sec. À sec de vin, à sec de gaieté, à sec de joie. Et on est le cœur vide, on est le cœur las, le cœur un peu déçu. Les illusions sont envolées. On est dans les ténèbres. Et là, Jésus arrive. Et combien il est beau de voir que Jésus ne va pas laisser tomber les gens de cette fête de mariage, mais qu'il va intervenir pour pouvoir donner la joie. Et le vin que Jésus fait est largement meilleur que celui qui précédait, à tel point que l'ordonnateur du repas appelle le mari et lui dit: mais c'est curieux, d'habitude on garde toujours le moins bon vin pour après, parce que une fois qu'on est un peu pompette, on se rend plus bien compte si on est en train de boire un grand vin ou un moins grand vin. Et il dit: toi, t'as fait le contraire. Le super bon vin, tu l'as gardé pour après. Jésus est en train de nous dire là: bon, t'as essayé des tas de recettes pour la joie. Et puis, au bout d'un moment, t'arrives à sec. Voilà, t'as épuisé les ressources. Et maintenant, eh bien, moi, je vais te donner la vraie joie. Une joie bien plus complète, bien plus forte, bien plus intense que celle que le monde peut te procurer, que celle que tu peux te procurer par tes propres efforts. Frères et sœurs, ça c'est important. Lorsque nous venons à Jésus, parfois nous avons un petit peu cette idée d'une austérité, de se dire: voilà, je vais devenir chrétien, je suis chrétien, ma vie va prendre une tournure un peu austère, avec des règles, on va plus pouvoir faire ceci, plus pouvoir faire cela, va falloir être sage, va falloir... Oh là là, on va pas se marrer tous les jours. Et peut-être les jeunes en particulier, vous vous dites « J'ai l'impression que mes copains s'éclatent mieux que ce que moi je vais pouvoir être heureux et joyeux, gai dans mon cœur, en étant chrétien. » Jésus vient vous dire ce matin, c'est tout le contraire. Placez votre foi en moi, c'est tout le contraire. Je suis venu pour vous faire sortir des ténèbres et de la fausse joie, des joies trompeuses qui laissent à la fin le cœur en miettes, assoiffé. Je suis venu pour vous donner une joie bien supérieure qui ne cesse pas. Je garde le bon vin. Et quelle formidable chose de voir que le premier miracle que fait Jésus, sa première manifestation, c'est pour nous dire: je suis venu dans les ténèbres, non pas pour vous défoncer, bim bam boum, alors toi ta vie elle va pas, etc., etc. Non, la première chose que je veux te dire, c'est que si tu places ta confiance en moi. Passer des ténèbres à la lumière, ça veut dire que ta vie peut prendre une tournure de joie que jusque-là tu ne connaissais pas, tu n'as pas connu et que tu ne connaîtras pas sans moi. La vie chrétienne, connaître Jésus, le Seigneur veut nous émerveiller, il veut nous réjouir. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. N'est-ce pas ? Et ça, c'est très important pour nous de nous rappeler, Dieu est le Dieu de la joie. C'est pas Dieu, dans son identité, n'est pas quelqu'un de morose, de triste. Dieu, c'est quelqu'un, c'est la joie, ça pète. L'enthousiasme, vous connaissez ce mot enthousiasme ? Ça vient du mot théo, enthousiasme, c'est être pris d'un transport divin. Et il y a cet enthousiasme, ce dynamisme, cette gaieté, cette joie qui est là et qui vient de Dieu. Alors Jésus, il ne laisse pas tomber. Il nous voit dans notre fête de mariage, dans notre fête de la vie, mais dans notre fête de la vie, ça y est, on est à court de vin. Eh bien, le Seigneur vient nous rencontrer et nous dit, écoute, ça tombe bien. Ça tombe bien que tu sois à court de vin. Ça tombe bien que tu sois à court de joie. Parce que j'ai quelque chose à te faire découvrir avec moi. Alors, vraiment, nous avons tous besoin de nous rappeler que en goûtant le vin du Seigneur, on passe à une vitesse supérieure d'une vraie joie dans le cœur. Et en tant que chrétien, le problème n'est jamais que la vie chrétienne est morose. Le problème, c'est que nous ne vivons pas la vie chrétienne dans toute sa dimension pour être remplis de joie. Nous passons le plus souvent à côté de l'émerveillement, de l'éblouissement, de l'enthousiasme que le Saint-Esprit veut et peut et sait parfaitement nous communiquer. La plupart du temps, en fait, nous ne prenons pas le temps de boire le vin du Seigneur. C'est comme si les serviteurs n'avaient pas cru à la parole de Jésus quand il leur a dit « remplissez ces jarres d'eau. Ben, et avec ça, tu vas nous apporter de la joie, du vin ?» Oui. Et souvent, notre problème, c'est que nous restons dehors. Même en tant que chrétiens, nous restons dehors, en dehors de la joie que le Saint-Esprit, que Jésus est parfaitement capable de nous communiquer chaque jour. Alors, frères et sœurs, nous avons cette promesse, cette certitude que la vie chrétienne, la vie avec Jésus, en connaissant Jésus, main dans la main avec Jésus, c'est la fête. Amen. Et ça, c'est la première des choses par lesquelles il se manifeste. Il dit « Avec moi, c'est la vraie fête. Allons-y. » Moi, je loue le Seigneur, vraiment, de ce que le premier miracle qu'il a fait, il commence par là, en nous disant « Tu sais qu'avec moi, ta vie, ça peut devenir une vraie fête. Une vraie fête du cœur plein, entière, d'un niveau que tu n'as jamais goûté jusque-là. » Est-ce que, frères et sœurs, vous croyez que Jésus peut faire de votre vie une fête que le monde n'est pas capable d'égaler. Amen. Alors, tournons-nous vers Jésus pour cela et vivons pleinement. Cela étant, nous avons le deuxième événement. Et peut-être il y en a qui se disent, avec Jésus, ça va être la fête. Il n'est pas venu pour m'empêcher d'être joyeux. Oh, ça va être l'éclat total. Je vais faire un peu ce que je veux. C'est un Dieu d'amour. Il est cool. Ça va être... tout est permis. Allez. Open bar. Comme dans le mariage. Eh ben non, pas open bar. Parce qu'il y en avait des petits malins religieux, nous le disions tout à l'heure, qui s'étaient dit, dans le temple, ça va devenir open bar. Je ne sais pas si c'est là qu'ils ont inventé les banques. En tout cas, ils ont fait du commerce, du marché, du business, alors que Dieu avait dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et là, ils se sont dit, on va se prendre un peu des libertés. Hein. Nous, ça nous fait plaisir de gagner un petit peu plus d'argent. Tiens. Et le deuxième événement est là pour cadrer et encadrer le premier. Oui, Jésus, c'est ce Messie qui vient nous apporter la joie. Amen. Et en même temps, cette joie, ce n'est pas du tout et du n'importe quoi. C'est pas commencer à faire n'importe quoi avec ma vie. Partir dans toutes les directions sous prétexte que ça me fait plaisir, sous prétexte que j'y trouve de l'intérêt. Seigneur, va mettre un terme, il va arrêter dans le temple ceux qui se croyaient tout permis et va dire, il y a quelque chose de supérieur, c'est la sainteté, c'est le respect de Dieu. Alors c'est la deuxième chose par laquelle le Seigneur se manifeste et qui doit également nous saisir, la colère que Jésus à lorsqu'on, dans notre vie, dans notre manière de vivre, nous déshonorons Dieu. Lorsque dans notre manière de vivre, nous commençons à faire tout et n'importe quoi, à manquer de sérieux, de colonne vertébrale, au point de faire des choses qui sont mal. Qui pose des problèmes d'éthique, là c'était le cas, qui éclabousse autour de nous. Et ce qui doit nous saisir dans cette colère de Jésus, c'est qu'il dit non, vous ne pouvez pas vivre n'importe comment. Et il nous dit à nous, je vous ai racheté par mon sang précieux. Ce n'est pas par des choses vaines, de l'argent et de l'or que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Christ. Et il dit, et ça me met en colère. Quand on fait tout et n'importe quoi et qu'on déshonore le nom de Dieu. Et nous avons ces deux phares dans notre vie chrétienne. Le premier, c'est de nous rappeler d'abord, Dieu est le Dieu de la joie et il est venu, il s'est fait chair pour que de mes ténèbres je puisse venir à la lumière, non pas pour rentrer dans une vie religieuse morose, mais pour réellement que ma vie soit une fête du cœur. Mais pour que ça reste vrai, cette fête du cœur, il ne s'agit pas que cette fête dégénère, en tout et n'importe quoi et se permettent tout et n'importe quoi comme manière de vivre, mais qu'elles respectent ce que le Seigneur nous demande. Il avait dit, voilà, le temple c'est une maison de prière, c'est pas une maison de commerce. Il y a des endroits pour faire du commerce. Et le Seigneur nous invite donc à considérer que le péché n'est pas une petite chose qui le laisse, je dirais presque indifférent. Vous savez, comme quand parfois sur certaines bêtises des enfants, on prend un ton faussement sévère, en fait on est en train de rigoler un peu en soi-même, on dit « Oh non, hein, oh, c'est pas bien, hein, c'est pas bien !» Puis le gosse en face, il a bien compris que bon, c'est pas bien, on dit ça pour la forme. Enfin, hein, ça va. Ça ne nous a pas réellement beaucoup fâchés. Le Seigneur nous dit que le péché, c'est quelque chose que nous ne devons pas prendre à la légère. Et quand nous péchons dans notre vie, il y a une colère de Dieu contre le péché. Et c'est important pour nous de vivre encadré de ces deux piliers, en même temps une vie pleine de joie, où c'est la fête du cœur et où le Seigneur a plein de choses, il n'est pas là pour nous limiter dans notre joie du tout. Bien au contraire. Mais en même temps, justement parce qu'il y a des joies mensongères, justement parce que Satan trompe par le péché, par la joie éphémère du péché, le Seigneur nous donne ce deuxième phare, disant, tiens-toi loin du péché. Et nous, frères et sœurs, parfois, un petit peu comme ces religieux juifs qui finalement commencent à prenez à la légère le temple, hein, le temple, le parvis, bon, hein, bon, on va se permettre. Eh bien, nous aussi, parfois, nous prenons un petit peu à la légère notre vie chrétienne. Il faut bien reconnaître qu'on n'est pas toujours très sérieux avec les choses de Dieu. Eux n'étaient pas sérieux avec les choses de Dieu. Mais est-ce que nous sommes toujours très sérieux avec les choses de Dieu? Quel témoignage est-ce que nous rendons autour de nous lorsque nous ne sommes pas tellement sérieux avec les choses de Dieu? Est-ce que nous ne déshonorons pas le Seigneur? J'aimerais profiter de ces deux épisodes pour faire deux petits apartés. Le premier concerne l'épisode des noces de Cana, où nous voyons Marie, la mère de Jésus, intervenir et venir auprès de Jésus en lui disant « ils n'ont plus de vin ». Et Jésus lui répond d'une façon qui nous semble un petit peu abrupte. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme ? Ouh. Ça jette un petit peu un froid. Femme, c'est comme madame. Donc il met une distance en disant, c'est pas maman, c'est madame. Y a quoi entre toi et moi ? Et j'aimerais profiter de ce chapitre, hein, pour faire un petit aparté justement sur la question de la place de Marie. Et je crois profondément que Dieu a permis cet épisode parce qu'il savait ce que le christianisme, des années plus tard, ferait de Marie. Et nous savons ce que l'Église catholique a fait de Marie. il en a fait la remplaçante de Jésus, au point que des millions de personnes prient plutôt Marie que Jésus, adressent leur prière à Marie, sous prétexte que Marie, bah déjà elle est plus féminine, Jésus, ils ont retenu la colère du temple, voyez, où Jésus, sa fouette, Marie, elle est là, elle arrange les choses. Et il y a une idolâtrie qui s'est créée où des gens croient être chrétiens, mais sont juste des païens qui prient une femme qui n'entend pas leur prière, qui ne peut pas répondre à leur prière et qui n'a absolument aucun rôle d'intercession entre nous et Christ. Et cet épisode est important parce que justement lorsque nous voyons Marie venir auprès de Jésus lui dire ils n'ont plus de vin. Ah, regardez, il y a Marie qui est en train d'intercéder pour nous auprès de Jésus. Ça, c'est ce que l'Église catholique dit. Et Jésus il met les choses très au clair. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme. Et en disant ça, il dit, il n'y a absolument aucun lien de subordination entre toi et moi. Oui, tu es ma mère humaine, mais dans ma nature divine, dans mon ministère du Messie, la parole faite chair, tu es une madame, tu es madame, comme tout le monde. Tu es pas plus qu'une autre. Et à d'autres, dans d'autres passages, hein, lorsqu'on vient dire à Jésus, il y a ta mère et tes frères qui veulent te voir, il dit, qui sont ma mère et mes frères? Il dit, ce sont ceux qui veulent faire la volonté de Dieu. Et donc, dans ce passage, Jésus met les choses au clair. Il dit très clairement que Marie et lui ne sont en aucun cas liés par une sorte de devoir, une sorte d'oreille. Jésus aurait plus une oreille envers sa maman Marie. Donc si on passe nos prières par Marie, on a plus de chances que Jésus nous écoute. Oui, ça l'Église catholique a fini par l'enseigner. Mais ce passage très clairement, Jésus très abruptement dit à sa mère, il n'y a rien entre toi et moi. Par contre, si je change l'eau en vin, c'est pas parce que tu me l'auras demandé. Si je change l'eau en vin, c'est parce que mon Père me dit de changer l'eau en vin. C'est parce que dans mon ministère, j'ai à cœur de changer l'eau en vin. Cela étant, après que Jésus ait mis au clair cela, Marie dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et dans ce sens-là, Marie, nous pouvons ressembler à Marie. Marie est quelqu'un qui croyait en Jésus. J'ai envie de dire que c'est sa première disciple. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que dans le texte, nous voyons que c'est après que Jésus ait changé l'eau en vin que ses disciples crurent en lui. Marie, elle y croyait déjà. Et elle amène les gens à Jésus. Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites-lui confiance. Placez votre confiance en lui. Et nous, qu'est-ce que nous faisons quand nous témoignons? Nous disons aux gens, placez votre confiance en Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Venez à lui, écoutez ce qu'il a à vous dire, écoutez ses paroles, mettez votre vie en règle par rapport au message que Jésus vous adresse. Et vous verrez que votre vie va devenir une fête. Faites tout ce qu'il vous dira. Et Marie, elle a ce rôle d'amener les gens à Jésus, de son vivant, comme nous, de notre vivant, nous avons le rôle d'amener aussi les gens à Jésus. Amen. Mais par contre, on n'amène pas les gens à Jésus une fois qu'on est mort, hein. Par des prière mensongère. Hein, vous savez, des fois, il y a les gens qui prient, des personnes de leur famille qui sont mortes en pensant que ça va aider, que tout ça, ils vont pouvoir agir. Ça, c'est n'importe quoi. Alors, sachons lorsque nous rencontrons des gens qui sont mariolâtres quelque part, hein, qui sont des adeptes de Marie, sachons plutôt les amener à qui ? À Jésus. Sachons les amener à Jésus. N'hésitons pas à leur montrer ce texte où Jésus dit « Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme ?» Le deuxième aparté concerne la colère du temple. Alors, nous voyons Jésus là se mettre en colère et on se dit, est-ce que c'est très chrétien de se mettre en colère ? Hein ? Et Jésus, à plusieurs reprises, s'est mis en colère. Il n'y va pas de main morte là d'ailleurs, hein, quand même. Hein ? Est-ce qu'il avait raison ? Oui. Est-ce qu'il était dans l'amour en faisant ça ? Oui. Jésus était dans l'amour. Dans cet épisode, on va dire, ah, aux noces de Cana, là, il était dans l'amour. Mais alors, dans la colère du temple, il était dans la colère. Non ! Il était toujours dans l'amour. Parce que l'amour, c'est ce qui... c'est ce qui va faire du bien à l'autre. C'est une action qui va construire dans la vie de l'autre. Et parfois, c'est en exprimant son indignation. Jésus, là, il est en train de rendre service aux gens. D'abord, par amour, il est en train de redonner aux païens l'espace qu'on leur avait volé. Imaginez les païens qui venaient de nations lointaines pour rencontrer le Dieu d'Israël qui arrivait au temple de Jérusalem et qui, alors qu'ils voulaient prier, s'adresser au Dieu d'Israël, il y avait les piaillements des animaux à côté, etc., les cris des marchands, le bruit des pièces, du change, les négociations, le business tout autour. Quelle concentration pour pouvoir adorer Dieu. Quel respect. Jésus, il a dit, il a rappelé l'Ancien Testament, « Ma maison sera appelée une maison de prière. » C'est pas fini. Pour tous les peuples. Ça, c'est la citation en entier. Pas juste une maison de prière. Oui, les Juifs, ils avaient leur coin, et croyez-moi que là où les Juifs priaient, il n'y avait pas de vendeurs. Hein. C'était le silence religieux. Par contre, dans la partie réservée aux non-Juifs, alors là, c'était le souk, quoi. Dieu avait dit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Et nous voyons déjà là l'amour de Jésus pour nous qui ne sommes pas juifs. Vous êtes juifs, vous ? Non ? Eh bien voilà, nous aurions été dans ce parvis des païens. Et là, nous avons Jésus qui intervient par amour et qui prend la défense de ceux qui sont mis de côté, de ceux qui sont méprisés. Deuxièmement, Jésus donne un repère à ceux qui étaient en train de manquer de sérieux dans leur vie, qui étaient en train de faire n'importe quoi. Vous savez, des fois, on a besoin que quelqu'un nous secoue un petit peu pour nous dire « Là, tu dépasses les bornes. » Et peut-être que dans je ne sais pas, dans l'ensemble des vendeurs qu'il y avait, il y en avait peut-être une petite fraction qui hésitait, qui leur conscience peut-être les travaillait, peut-être sur une centaine qu'il y avait, il y en avait peut-être 3, 4. Ils avaient fini par franchir le pas de venir dans l'enceinte du temple faire le business, mais avec une mauvaise conscience. Peut-être qu'ils avaient franchi le pas en se disant bah, en même temps je respecte pas et ça me pose un problème de conscience, mais en même temps du coup moi je gagne plus ma vie là, en étant ailleurs je mets mon échoppe dehors et personne ne vient acheter. Si je rentre dans le temple, j'ai vu, c'est de la concurrence déloyale. Et peut-être que finalement ils avaient un peu bousculé leur conscience. Ah, puis ils s'étaient installés. Pas tout à fait la conscience tranquille, mais installés quand même. Et puis, voilà Jésus qui arrive avec un fouet et qui chasse tout le monde, bing, bam, boum. Je pense qu'il y en a 3 ou 4 qui sont rentrés chez eux ce soir-là et qui se sont dit, il avait raison. J'ai dépassé les bornes. Je ne vais plus me réinstaller dans le temple. Alors, attention, ce n'est pas la majorité. Hein. C'est peut-être 3 ou 4. Et puis, ne vous inquiétez pas, il y en a 3 ou 4 autres sans scrupules qui ont pris leur place. Hein. Parce que Jésus, nous le revoyons plus tard dans les évangiles, une deuxième fois venir dans le temple et chasser encore, n'est-ce pas ? Mais au moins, Jésus donne des repères. Un repère salvateur, il dit, là tu dépasses les bornes. Et chez certains, ça va faire un écho. Il va dire, ouais, c'est vrai, j'ai dépassé les bornes. Il avait raison d'être en colère contre ce que je fais. Et puis d'autres, ça ne va pas les faire changer, mais par contre, ça leur a donné un repère. Et Dieu les jugera en fonction de ce repère. Et ils ne pourront pas dire, ah ben personne nous a dit, personne n'est venu nous arrêter. Hein. Si, si, moi je suis venu et je vous ai dit noir sur blanc les choses. Et vous avez continué et vous serez jugé pour cela. Eh bien, nous c'est important également, on peut se dire, est-ce qu'un chrétien peut se mettre en colère ? Oui, ça peut arriver. De devoir exprimer notre indignation contre quelque chose qui ne va pas. Et en exprimant notre indignation, et on rigole pas, c'est pas le moment de rire, on est en colère, on est fâché, ça ne va pas, mais on donne un repère. Et la Bible nous dit, mettez-vous en colère et ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Dans certaines versions, c'est « si vous vous mettez en colère, ne péchez pas », mais le grec est un impératif. « Mettez-vous en colère et ne péchez pas ». Évidemment, ce n'est pas une colère qui doit dégénérer avec du péché qui vient s'y greffer. C'est pour ça, souvent, qu'on dit « oui, mais Jésus, c'était une colère sainte ». Oui, mais le chrétien aussi, qui est habité du Saint-Esprit, peut tout à fait ressembler à Jésus. Et lorsque c'est opportun, lorsque c'est constructeur, exprimez une juste colère sainte. Sans péché, mettez-vous en colère et ne péchez pas. Et c'est important de dire des choses quand elles ont besoin d'être dites. Et on ne les dit pas en disant « Oh, tu sais, c'est pas bien, hein ?» Non, il y a un moment, c'est grave et c'est sérieux. Il y a des sujets fondamentaux. Et c'est important que nous puissions, de la part de Dieu, mettre des repères dans la vie des gens qui nous entourent, dans le contexte hein, qui est le nôtre. Et donc cet épisode de la colère de Jésus nous montre. Jésus ne s'est pas mis en colère pour lui-même, mais parce que Dieu était déshonoré. Parce que les nations autour, les peuples, étaient méprisés. Il s'est indigné pour ce qu'on faisait aux autres et à la gloire de Dieu. On portait atteinte à la gloire de Dieu. On va terminer avec ce chapitre nous montre la naissance de la foi. On voit dans ce chapitre que Au verset 11, « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Et puis ensuite, nous voyons, après l'épisode du temple et de la fête de la Pâque, au verset 23, « Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. » Et on se dit, c'est formidable, Jésus fait des miracles et on croit en lui. Et là, d'ailleurs, ça pose la question de la place des miracles dans la naissance de la foi. On se dit, ah ben, c'est grâce aux miracles que la foi naît. Alors, c'est vrai, mais quelle foi ? Nous voyons deux exemples, la foi des disciples, qui est une foi profonde, authentique, sincère, qui vont mettre leur existence entre les mains de Jésus. Et puis nous voyons ceux qui croient en son nom, en voyant les miracles qu'il fait, verset 23, mais regardez le 24 et 25, « Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Ce texte nous dit que oui, il y en a qui croient en Jésus pour ses miracles, mais Jésus ne se fiait pas à eux. C'est-à-dire, il dit, oui, vous croyez mes miracles, mais vous n'êtes pas prêts à remettre votre vie entre mes mains pour vivre, selon ma parole, dans l'obéissance à mon message. Il y a, nous dit l'épître de Jacques, une foi qui sauve, et il y a une foi qui ne sauve pas. On peut croire, mais croire ne suffit pas. Croire quoi ? Croire qui ? De quoi est accompagnée cette croyance ? De quelle décision ? De quel engagement personnel ? Croire en Jésus ? Jacques dira, les démons aussi y croient, hein. Il tremble. Il y a une foi. Je crois en Jésus. Ouais, j'y crois. Mais je ne mets pas ma vie entre ses mains pour lui obéir. Je n'accueille pas la totalité de son message pour l'exercer dans ma vie. Oui, je crois en lui, je crois en sa divinité. Pourquoi pas ? Eh bien, ce n'est pas une foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est celle où on accueille la totalité de ce que Jésus nous dit concernant nous-mêmes, concernant notre péché, notre besoin de repentance et le besoin de changer radicalement en naissant de nouveau et en alignant notre vie sur la parole de Dieu. Alors nous voyons donc cette place des miracles ici, c'est vrai. Nous voyons l'accomplissement des prophéties qui concernent le Messie. Et il était important que Jésus fasse les miracles qu'il a faits pour attester qu'il... C'était pas juste un beau parleur qui disait « Moi, je suis le Fils de Dieu, je suis la parole faite chair. » Oui, il le disait, mais il le montrait. Nous pensons au miracle, par exemple, de l'aveugle-né qui va recouvrer la vue. A-t-on jamais entendu dire qu'un aveugle de naissance recouvre la vue, dira-t-il. Il dira, il est le Messie. Jésus, par les miracles, a montré que sa prétention à être le Fils de Dieu, ce n'était pas une prétention infondée, c'était simplement la réalité. C'était les faits. Il était Dieu fait homme et il l'a montré par les miracles qu'il a faits. Puis les apôtres à leur tour et l'Église, durant toute la période de proposition messianique au peuple juif, jusqu'à ce que Jérusalem soit détruite en 70, les signes, les miracles, les prodiges ont accompagné l'évangile pour attester pour dire oui, tout ce qui avait été promis au peuple juif, qui concerne le Messie, qui concerne la proposition du Messie au peuple juif, et que ça s'accompagne de signes, de miracles, de prodiges, regardez, c'est là. Vous en êtes témoin. Mais le fait d'en être témoin ne suffit pas à susciter la foi qui sauve. On peut fermer son cœur même en voyant les miracles. Ce n'est pas parce qu'un miracle se produit que les gens croiront. Ils croiront peut-être, mais pas forcément de la foi qui sauve. Ils croiront peut-être de la foi qui ne sauve pas. Et aujourd'hui, nous avons l'attestation historique que Dieu a été fait chair, qu'il est venu parmi nous, qu'il a fait des miracles, il est ressuscité, il y a eu des témoins de sa résurrection, et l'Église, portant ce message messianique, a évangélisé avec des signes et des prodiges. Et c'est historique. Le fondement a été posé. Aujourd'hui, Dieu peut encore faire des miracles. Ça n'est plus la règle et systématique comme ça l'était dans la période messianique. Mais Dieu peut s'en servir encore aujourd'hui pour susciter la foi. Mais nous voyons que nous n'avons pas à regretter en se disant « Ah, si seulement on pouvait avoir vraiment des tas de miracles qui arrivent, les gens croiraient !» Non. Non, ils n'ont pas cru du temps de Jésus, ils n'ont pas cru du temps des apôtres, ils ne croiront pas plus aujourd'hui. Ils croiront comme n'importe qui croit au marabout qui te guérit, l'autre qui tire le feu, ils y croient, et puis c'est tout. Mais ça ne transforme pas leur existence, ça ne les amène pas forcément à la repentance. Alors, témoignons avec courage. C'est vrai, parfois, on préférerait agrémenter notre témoignage d'un petit miracle. C'est bien de se cacher derrière un miracle. C'est plus sympathique. Moi, je me vois, tu vois, j'arrive avec mes collègues et tout. Oh là là, tu as quoi ? Ah, tu as un début de cancer. C'est ennuyeux. Écoute, je vais prier pour toi. Tu vas voir, tu vas être guéri. Moi, j'aimerais bien, hein, j'aimerais bien pouvoir arriver comme ça. Je vous dis pas le témoignage. J'aurais l'impression que ça va péter, que vraiment mes collègues, là, ils seraient impressionnés, ils vont dire « Ah ben Adrien, quand il parle de Jésus, c'est vrai, on va le croire. » Et là, je me dis « Mince, j'ai pas de miracle dans la poche, c'est difficile de leur témoigner. » Témoignons avec courage, en sachant que de toute façon, miracle ou pas miracle, ce n'est pas ça qui fait la différence entre la foi qui sauve et la foi qui ne sauve pas. Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il connaissait ce qui était dans l'homme. Il sait comment le cœur humain est tordu et que même face au miracle, il y aura une croyance pour le surnaturel, pour ce qu'on veut. Mais ce n'est pas ça qui amène forcément un cœur à la repentance. Alors moi, ça m'encourage à témoigner, même si je n'ai pas un ou deux miracles dans la poche pour hop, donner un peu de... Le miracle, c'est le Saint-Esprit qui le fait, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc les hommes de péché, de justice et de jugement. Amen. C'est ça la chose. Le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Alors témoignons. Et faisons comme Marie, en apportant, en orientant les gens vers Jésus. Prions. Seigneur, on veut te remercier parce que tu es le Dieu de la joie. Et nous voulons pas partir sans nous rappeler ça. Que tu n'as pas prévu pour nous une vie chrétienne morose, mais pleine d'enthousiasme. Tu veux, Seigneur, par ton esprit, mettre notre cœur dans une fête perpétuelle de tous les jours, un festin de tous les jours. Seigneur, te demandons pardon parce que souvent nous négligeons ce festin, nous négligeons de venir nous asseoir à ta table pour festoyer. dans ta communion. Ô Seigneur, que nous puissions, dans nos journées, c'est vrai qu'ils sont très occupés, qu'ils sont chargés, mais justement, que nous puissions, dans ces journées chargées et occupées, les remplir de la joie que seul toi peux donner et qui va englober l'ensemble de notre quotidien, qui va l'imprégner en toutes choses. Nous voulons te remercier parce que tu es d'abord celui qui se révèle, comme ce Dieu qui veut nous faire passer de la fausse joie, de la panne sèche, à l'abondance, à la plénitude de la joie par le Saint-Esprit. Encourage les jeunes, Seigneur, tout particulièrement à ne pas céder aux sirènes du monde et de la jeunesse, aux fausses joies, aux faux messages de gaieté qui retombent de toute façon à la fin comme des soufflets. Et Seigneur, que tu les protèges, mais que tu leur donnes, Seigneur, vraiment de cultiver chaque jour et de grandir chaque jour dans la joie que tu veux leur donner. Seigneur, que nous puissions également faire attention d'être sérieux dans les choses qui te concernent. Sérieux avec les choses de Dieu. Et nous voulons nous souvenir que de l'indignation que tu exprimes, qui te saisit, lorsque tu nous vois faire tout et n'importe quoi spirituellement parlant, et que nous ne sommes pas du tout sérieux avec toi. Seigneur, dans ces moments-là, nous te déshonorons et nous oublions à quel grand prix nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre. Aide-nous, Seigneur, à vivre à ta gloire, avec sérieux et joie. Au nom de Jésus. Amen.